Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la web radio TerraZen et vous écoutez les histoires du soir avec Olivier Burette et ce soir, nous allons parler des aborigènes d'Australie. Nous avons déjà fait une émission sur ce peuple extrêmement ancien, peut-être un des plus anciens de la Terre, et il nous est apparu intéressant d'en faire une autre tout simplement ce soir, car je crois qu'on n'en parlera jamais assez d'un peuple méconnu, hein, dont la date extrême remonte pratiquement à 125 000 ans avant d'entrer. On est là vraiment en présence d'un peuple extrêmement ancien. Un peuple donc qui concerne cette immense île continent, hein, puisque on va ce soir parler d'un territoire qui est quand même parmi les plus lointains encore à l'heure actuelle, hein, pour atteindre l'Océanie, puisqu'il s'agit du sixième continent, hein, qui donc fait à peu près 8,5 millions de kilomètres carrés, hein, qui est situé dans l'hémisphère sud, hein, et qui comporte ce sixième continent, l'Océanie, et bien on le sait, principalement cette immense île, hein, qu'on appelle une île continent, hein, qui est l'Australie. Et tout autour se trouve la Nouvelle-Zélande, bien sûr, hein, la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, hein, et tout un tas d'autres îles qui forment cette masse qu'on appelle l'Océanie. Alors, ce peuple, hein, a eu une histoire tout à fait étonnante, puisque ce sont les premiers habitants évidemment de l'Australie, c'était vraiment les aborigènes, hein, ce qui veut dire en latin ab origine, hein, c'est-à-dire depuis l'origine, et qui bien sûr ont formé, hein, pendant vraiment des millénaires, on va le voir, à peu près une population de 350 000 à 1,5 million de personnes, hein, qui ont vécu là, quasiment coupées du monde, dans cet immense continent australien, depuis les origines de leur peuplement, comme on va le voir, jusque, eh bien, évidemment, le moment où la colonisation de l'île continent australienne, bah, c'est fait, hein, à partir des premiers contacts au XVIe siècle, et puis à partir de 1788, bien sûr, qui est la date officielle du début de la colonisation de l'Australie. Alors l'Australie, à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est ? Ben, on le sait, c'est un État qui est un État de type fédéral, qui appartient au Commonwealth, c'est-à-dire que la reine d'Angleterre en est le chef de l'État, symboliquement bien sûr, un peu comme le Canada, hein, avec un Premier ministre, des élections libres, etc., et qui comporte à peu près 22 millions d'habitants pour un territoire d'à peu près un peu plus de 7,5 millions de kilomètres carrés. On a dit tout à l'heure que l'Océanie en tant que telle faisait 8,5 millions, donc l'Australie occupe évidemment pratiquement les trois quarts, plus des trois quarts même, de la surface de ce continent, hein, c'est-à-dire un pays qui est grand comme 14 fois la France, hein, mais qui est trois fois moins peuplé que celle-ci, hein, on l'aura compris. Alors, on ne va pas parler de l'Australie en tant que telle ce soir, mais puisqu'on se concentre sur ce peuple des origines qui a peuplé cette Australie dont on parle ce soir, mais les trois quarts de la population se concentrent dans les grandes villes situées à l'est, telles que Melbourne à l'est et au sud, Melbourne, Sydney, Brisbane, bien sûr, où sont les grandes mégapoles qui bordent donc l'océan Pacifique. Et pour le reste, c'est un territoire absolument immense, peuplé de déserts, de semi-déserts, ou de gigantesques exploitations agricoles. Voilà pour ce qu'il est du descriptif rapide de l'Australie actuelle. Et c'est là, dans ce milieu, que eh bien, ce peuple s'est développé. Alors on va voir ce soir, rapidement, dans un déroulé, ce qu'est le contexte de tout cela. On a commencé un peu à l'évoquer. On évoquera l'histoire avant l'histoire de ce peuple, c'est-à-dire tout ce qui remonte à, je vous l'ai dit, presque 100 000 ans avant notre ère. Bon, les chiffres, les sources actuelles, les recherches actuelles parlent d'un peuplement qui commence autour de 50 000 ans avant notre ère, c'est quand même pas mal. Donc c'est le temps du rêve, comme l'appellent eux-mêmes les aborigènes, un temps du temps avant l'histoire, comme on dit. Ensuite, on verra tout ce qui s'est passé avec cet incontestable clash, choc de civilisation qu'a représenté la colonisation, avec les premiers contacts en 1522 et puis ensuite le débarquement dans l'île donc par justement l'est du capitaine Cook à Botany Bay en 1770 et puis toute la colonisation et ce qui s'en est suivi. On verra ensuite évidemment le long parcours à partir du début du XXe siècle de la revendication des aborigènes pour récupérer leurs terres, pour faire valoir leurs droits dans cette société coloniale qui s'était mise en place. Et puis on verra un peu aujourd'hui où nous en sommes, bien sûr, avec les droits que progressivement les aborigènes ont pu obtenir, leur insertion dans la société. Et puis on terminera bien sûr avec les aspects tout à fait mystérieux qui entourent évidemment ce peuple tout à fait original, notamment au travers des fameux dessins de Wandjija qui se trouve dans l'ouest de cet immense île continent. On aura l'occasion d'en reparler. Alors il faut bien comprendre que des mots comme Wangjida, Uluru, Boomerang, tout ça fait partie de l'univers de ce peuple tout à fait original qui avait développé une civilisation extrêmement intéressante. Et tout commence en fait par, comme je le disais tout à l'heure, les origines, c'est-à-dire d'où viennent-ils. Alors pas mal d'archéologues, d'anthropologues, on fait des recherches, bien sûr, sur ce peuple, où c'est une tradition purement orale, on l'aura compris. Et toutes les théories les plus avancées à l'heure actuelle nous disent que, donc, dans une période assez vague, entre 50 000 et 100 000 ans avant notre ère, eh bien, un temps où le niveau des mers était plus bas, ce peuple aborigène serait venu depuis le nord, c'est-à-dire depuis en fait l'archipel de l'Indonésie, de la Nouvelle-Guinée. Et on parle de Timor notamment, de la Nouvelle-Guinée, je l'ai dit, et ils ont passé assez facilement, tout simplement, car c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs à l'origine, donc les isthmes divers, ils sont tombés dans cette immensité de cette île-continent, où ils se sont installés, qu'ils ont donc colonisé, eux, progressivement, bien sûr, qu'ils se sont implantés, jusqu'à ce que, toujours nous disent les sources, a formé à peu près une population qui, selon l'anthropologue et ethnologue Norman Tyndale, personnage extrêmement intéressant, hein, dont les dates sont 1900-1993, un Australien qui s'est intéressé à ce peuple et qui a pu reconstituer, après un travail extraordinaire, la carte de l'Australie aborigène, juste avant le début de la colonisation, formée d'à peu près 250 tribus. Alors il faut comprendre qu'il y a autant de tribus que de langues différentes, ce qui complexifie les choses, et d'une population, je l'ai dit tout à l'heure, d'à peu près 350 000 à 500 000 âmes. On aura bien compris que la colonisation va évidemment jouer un rôle tout à fait dramatique dans ce choc, hein, et qui va réduire, hein, considérablement ce nombre, on le verra tout à l'heure. Donc il passe par le nord, probablement par le Cap d'York, hein, qui est vraiment situé tout au nord de l'Australie, parce que on a pu reconstituer effectivement que les premiers peuplements venaient de là. Et puis ensuite, eh bien, les millénaires se passent, hein, on est vraiment là dans une histoire extrêmement longue. Les millénaires se passent pour tout simplement arriver, hein, à ce que le niveau des mers finisse par remonter, et que donc on a là, et c'est fort intéressant, un peuplement, qui va se développer de façon complètement autonome, avec une culture, hein, tout à fait particulière. Je parlais tout à l'heure du boomerang, hein. Ça n'était pas qu'un jeu, c'est aussi un objet pour chasser, hein. Une population, une culture tout à fait originale, dans une île elle-même tout à fait originale, hein. Parce que vous le savez, en Australie se trouvent des espèces d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs, hein. Je pourrais évoquer avec vous le diable de Tasmanie, le kangourou, le walibi, etc. Et sans parler toutes les espèces d'oiseaux, on a vraiment une île, continent qui s'est développée de façon complètement autonome, avec une population tout à fait originale, donc que sont les aborigènes. Alors, cet isolement va durer pendant toute cette période que l'on appelle le temps du rêve, donc évidemment des dizaines et des dizaines de milliers d'années, avec une tradition orale, avec des connaissances, on commence à le savoir aujourd'hui, sur le plan astronomique, tout à fait unique, d'une précision incroyable, alors que bien sûr cette population, ce peuple dans sa culture, n'avait pas développé de technologie telle que nous le faisions, hein. On a un autre exemple, c'est en Afrique, hein, avec le peuple des Dogons, hein, qui connaissent, on le sait en détail, tout le système que nous ne commençons qu'à connaître aujourd'hui autour de l'étoile Sirius. Bah, les aborigènes, c'est un peu la même chose, ils avaient des connaissances astronomiques tout à fait pointues, et qui, évidemment, nous rassoient dans nos sièges, si on peut dire, puisque finalement il s'agit là de choses tout à fait étonnantes, et surtout d'un développement d'une civilisation sur une autre base que nos civilisations matérielles, et ça c'est extrêmement intéressant. De le citer, de le dire. Alors ce temps du rêve qui dure donc en gros de 50 000 ans avant notre ère à 1788, c'est une période évidemment où par la peinture très importante dans la culture aborigène, on a toute une mythologie peuplée de créatures géantes, de dieux créateurs. Et tout ça donc réparti, on l'a dit tout à l'heure, à peu près entre 350 000 et 500 000 personnes, 250 tribus, avec leur langue, leurs lois, leurs frontières. C'est incontestablement aujourd'hui, peut-être avec aussi quelques tribus amazoniennes qu'on n'aurait pas encore retrouvées, la plus ancienne culture indigène sur Terre. C'est absolument incontestable. Alors ce temps-là, évidemment, va se terminer, puisque on le sait, à partir de la fin du XVe siècle, hein, 1492, eh bien, les techniques, hein, la Renaissance, les techniques de navigation de l'Europe, de l'Europe chrétienne en pleine expansion, en plein boom économique, vont faire que, eh bien, on le sait, les Amériques vont être découvertes, voire redécouvertes. Hein. C'est peut-être ça aujourd'hui que l'on pense le plus, puisque on sait aujourd'hui à peu près que probablement les Vikings avaient, les peuples du nord de l'Europe avaient déjà pris contact avec des zones comme le Labrador. Mais disons qu'officiellement, on le sait, hein, c'est 1492. Hein, la fameuse découverte, ou non découverte plutôt, par Christophe Colomb, donc de ce qu'on appellera les Indes, en fait, tout simplement les Caraïbes, et par extension, bien sûr, l'Amérique. L'Amérique est découverte par Amerigo Vespucci, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Amérique, d'ailleurs, sinon ça se serait appelé la Colombie, ou la Colombie, le nom de Colombie est un hommage à Christophe Colomb, bien sûr. L'Australie, c'est un peu plus tard quand même, puisqu'il va falloir le contournement de l'Afrique par le sud, et puis l'exploration de proche en proche de l'Indonésie par tout un tas de navigateurs, évidemment, notamment portugais, pour que, en 1522, on aperçoive pour la première fois les côtes de l'Australie. Elle sera explorée à partir de 1606, c'est-à-dire le début du XVIIe siècle, et puis en 1770, et c'est fort curieusement d'ailleurs, c'est par l'Est que cela va se produire, le capitaine Cook, hein, qui avait découvert tout un tas d'îles déjà dans l'océan Pacifique, eh bien, de proche en proche, va buter sur la côte Est de l'Australie, et pas par la partie Ouest ou la partie Nord. Pourtant, c'est bien là qu'on est plus proche d'autres continents, de l'Asie, de l'Indonésie, on l'a dit tout à l'heure. Ben non, c'est par l'Est que ça va se produire, à Botany Bay. Botany Bay est une petite baie qui n'est pas très loin à l'heure actuelle de la baie de Sydney, et en 1770, donc, le capitaine Cook débarque, et il va écrire très rapidement dans son journal de bord ceci, à propos évidemment des peuples avec lesquels il va entrer en contact. En réalité, ils sont bien plus heureux que nous les Européens, ils vivent dans la tranquillité qui n'est pas troublée par l'inégalité de la condition, la terre et la mer leur fournissent toutes les choses nécessaires pour vivre, ils vivent dans un climat agréable et ont un air très sain, ils n'ont aucune abondance. Alors on est en plein, évidemment, mythe typique du XVIIIe siècle, comme vous le savez, du, je cite, « bon sauvage », hein, de ces peuples heureux et innocents, et qui, évidemment, comment dire, n'attendent qu'une chose, évidemment je dis ça de façon ironique, c'est-à-dire d'être colonisés, et comme dans tout ce type de scénario, comme ceux qui ont concerné les Indiens d'Amérique du Sud, les Indiens d'Amérique centrale et les Indiens d'Amérique du Nord, eh bien les pauvres aborigènes vont subir le même sort, évidemment. C'est-à-dire que ce choc va mal se passer. C'est-à-dire qu'à partir des moments des débuts de fraternisation avec les hommes des expéditionnaires du capitaine Cook, eh bien à partir de 1788, c'est l'implantation pure et simple, cette fois-ci de colons, principalement de l'Empire britannique, hein, et qui vont tout simplement, au nom de la couronne donc d'Angleterre, eh bien s'emparer de ce territoire gigantesque dont on ne soupçonne même pas encore à l'époque, évidemment, les gigantesques ressources. Alors ça va être toute la période qui va suivre les années 1788, hein, jusque la fin tout simplement du 19e siècle. Alors c'est une expansion assez rapide, de 1788 à 1813, c'est déjà toute la région autour de Sydney qui va être donc colonisée. Le premier gouverneur, hein, de la région s'installera dans Sydney, hein, bien entendu. Et puis de 1813 à 1834, eh bien, la colonisation va progresser vers l'ouest, hein, puisque donc on a bien compris qu'on partait de l'est, hein, c'est-à-dire de la côte pacifique, vers l'ouest, hein, en découvrant toujours de plus en plus loin que cette île est tout sauf une île, mais en fait un gigantesque continent, hein, bien sûr, une île-continent, c'est un cas unique, hein, en tout cas dans la période que l'on aborde. Donc, conquête des Blue Mountains, c'est là, effectivement, eh bien, il va y avoir les premiers affrontements hein, avec les indigènes qui commencent à prendre conscience, eh bien, tout simplement, hein, les aborigènes, qu'on vient exploiter leur territoire, s'en emparer et les chasser, évidemment, au profit hein, de l'installation de colons. À la même époque, un terrible décret hein, qui s'appelle Terra Nuilis hein, sera promulgué. Un décret qui tout simplement attribue hein, aux colons les terres sur lesquelles se trouvent les aborigènes en indiquant quelles sont tout simplement ces terres désertes. Hein, désertes non peuplées. Hein, c'est-à-dire qu'on niera complètement l'existence même de ces gens. Qui quand même à hauteur d'à peu près 500 000 d'individus étaient là hein, bien avant et qui plus est depuis des dizaines de milliers d'années comme on vient le voir voilà malheureusement hein, on le sait ce type de choc on l'a retrouvé partout, on l'a retrouvé en Afrique, on l'a retrouvé dans les Amériques, tous les continents qui ont été touchés par le phénomène de la colonisation ont subi le même type de violence hein. C'est un fait indéniable en tout cas de l'histoire humaine, en tout cas sur les 500 dernières années. Alors, ce sera en même temps la conquête de cette île qu'on appelle la Tasmanie, une grande île du sud hein, de l'Australie, toujours à cette époque-là. Et puis le 19e siècle, eh bien, va voir donc tout le 19e siècle, c'est-à-dire après 1834 et jusqu'au début du 20e siècle, eh bien, une immense conquête de tout le reste, c'est-à-dire on va installer le train, le télégraphe, hein. Les aborigènes seront de plus en plus chassés de leur territoire, on va tenter de les christianiser également, c'est-à-dire de leur faire comprendre qu'il faut désormais laisser tomber les dieux, les idoles, et bien sûr souscrire à la religion du colonisateur, hein, donc avec des pasteurs, en fait, etc., anglicans, qui vont donc évidemment convertir ces pauvres aborigènes. Et puis, le 19e siècle se passe, on a toujours le même phénomène, le même scénario hein, qui se déroule pendant toute cette période, hein, qui est donc d'une conquête suivie de rébellions hein, locales, d'épidémies, puisqu'il y a un choc épidémiologique, hein, évidemment, qu'apportent les Occidentaux. Et tout cela, donc, les sources nous indiquent, hein, les maladies européennes tuèrent des aborigènes en grand nombre et l'occupation de terres accompagnée de l'accaparement ou de la destruction de ressources alimentaires provoqua des famines. Donc, très rapidement, ce choc hein, est tout à fait, comment dire, terrible, avec ce cycle hein, que j'ai indiqué, donc résistance, bien sûr, des populations aborigènes. Réaction à ces résistances, évidemment, et massacre, hein, évidemment, des populations. On peut citer hein, trois petits témoignages hein, de l'époque hein, qui en disent long. Le premier, tant qu'ils penseront que nous les avons dépossédés de leurs terres, ils nous considéreront comme leurs ennemis. Et partant de ce principe, ils ont attaqué les personnes blanches à chaque fois qu'il leur était possible de le faire. Donc ça, c'est un premier témoignage. Évidemment qu'ils pensent qu'on les dépossède de leurs terres, puisque évidemment il s'agit d'une colonisation, hein, c'est-à-dire une exploitation intégrale hein, de toutes les ressources de l'île, l'implantation évidemment, hein, on pense bien que les fameux, bon, on parle souvent des moutons en Nouvelle-Zélande, mais en Australie c'est un peu la même chose, hein, eh bien d'immenses fermes avec l'implantation d'animaux venant de l'Occident hein, pour évidemment développer l'économie de l'Empire, hein, de l'Empire britannique. En 1847, le barrister E.W. Landor déclara « Nous sommes emparés de ce pays, nous avons abattu ses habitants jusqu'à ce que les survivants aient jugé sage de se soumettre à notre autorité. Nous nous sommes comportés tel Jules César lorsqu'il prit possession de la Grande-Bretagne. » Donc ça, il s'agit d'un témoignage un peu critique. Et puis également un autre, le troisième, nous sommes en guerre contre eux, ils nous considèrent comme des ennemis, des envahisseurs, ils considèrent que nous les opprimons et que nous les persécutons. Ils résistent à notre invasion, ils n'ont jamais été vaincus. Et donc, ils ne sont pas des sujets en rébellion, mais une nation injuriée, et ils défendent à leur manière les possessions qui sont les leurs de droit et qui leur ont été arrachées par la force. Il s'agit évidemment là de témoignages. Hein. Tout à fait critique, hein, puisque bien sûr on se rend compte, hein, certains se rendent compte, évidemment, du désastre que cela représente. Les massacres les plus tristement célèbres au XIXe siècle seront ceux de Pinjara et de Mayal Creek, hein, par exemple. Puis ensuite, on va entrer dans la période dite l'après, quoi, c'est-à-dire ce qui va se passer ensuite, et en quelque sorte ce long chemin que j'évoquais tout à l'heure, hein, vers une remontée des cultures aborigènes, de ce qui reste de ce peuple, vers donc une reconquête en quelque sorte, ou tout simplement une tentative de s'insérer, hein, dans la société qui naît en quelque sorte de la fin de la conquête, hein, de l'île. Et tout ça nous amène au début du XXe siècle. L'Australie évolue, va devenir une fédération, hein, et les colonies australiennes donc se fédèrent avec une constitution nationale en 1901. Et à partir de là, quelques aborigènes, effectivement, sont associés à ces débuts et vont pouvoir voter. C'est un très très timide début. À partir de 1930 et donc de la fin de la Première Guerre mondiale, hein, eh bien c'est le début de la lutte des aborigènes pour leurs droits. À partir de 1938, une grande manifestation intitulée le jour de deuil a lieu. Et puis il va encore falloir attendre longtemps la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour que, à partir des années 50, commence ce que l'on appelle une politique d'assimilation. Politique d'assimilation qui voit en 1958 la création du Conseil fédéral pour l'avancement des droits indigènes et des peuples, des îles regroupant toute l'Australie. Ensuite, en 1967, c'est le premier recensement national. Hein, on inclura les aborigènes dans le recensement national, c'est décidé, et il y a une consultation électorale, une votation comme on dirait aujourd'hui, pour donc que 90%, hein, des Australiens acceptent, hein, que ce peuple soit tout simplement considéré comme existant. Hein. C'est extrêmement important. En 1971, c'est un aborigène dont le nom restera dans l'histoire, qui s'appelle Neville Bonner, qui est le premier à avoir été élu dans le Parlement fédéral de l'Australie. C'est une date extrêmement importante. Et puis, l'histoire se poursuit. 1976 voit le début de la politique de restitution des terres, qu'on appellera les Oblands, notamment dans les territoires du Nord, hein, puisque c'est bien sûr dans ces régions-là, hein, ce qu'on appelle les Northern Territories, qui est cette région où se trouve notamment cette montagne sacrée du nom de Uluru, hein, Ayers Rock, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les terres sacrées les plus anciennes de ce peuple plurimillénaire, si on peut dire. Et c'est là, à partir de 1976, que symboliquement on va commencer à leur restituer leurs terres. 1988 voit le bicentenaire de la colonisation, 1788, hein, 1988, et c'est là encore une fois de grandes manifestations qui ont lieu pour défendre les droits des aborigènes. Et il faudra seulement attendre 1992, c'est-à-dire quand même, il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine d'années, hein, pour que eh bien, le fameux décret de Terra Nullius, dont je parlais tout à l'heure, sur les terres inhabitées, hein, vous savez, vous vous souvenez, qui niait complètement l'existence, hein, de ce peuple, eh bien, soit abrogé enfin. Abrogé, et ce qui aboutira à la reconnaissance de la propriété foncière ancestrale, hein, pour ce peuple. C'est une victoire immense, hein, pour donc à ce que le peuple aborigène puisse tout simplement reprendre, hein, possession non seulement de ses terres, mais de son identité, hein, tout simplement. Alors dès lors, ça devient un enjeu évidemment politique. Il y a deux tendances qui vont se faire dans la population australienne. D'une part, celle qui souhaite absolument, tendance plutôt libérale, à ce qu'il y ait réparation, hein, de ces massacres. On n'ose pas encore de parler de génocide, mais disons de l'extermination de ces peuples dus à la colonisation. Donc un souhait de réparer, si toutefois c'était possible. Et puis l'autre qui est celle de l'Australie pour les blancs, pour les propriétaires terriens, etc., et qui ne veut surtout aucun mélange, hein, et qui rejette les aborigènes dans la misère. Néanmoins, la suite vers la réconciliation va se développer, les arts vont être favorisés. En 2000, ce sont les fameux Jeux Olympiques qui ont lieu en Australie, hein, et Cathy Freeman, hein, qui va allumer donc lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Sydney, la flamme olympique. Cathy Freeman, qui est une aborigène, c'est un grand symbole. On entre dans le 21e siècle, et là encore une fois, un grand clin d'œil est fait à ce peuple plurimillénaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, beaucoup de problèmes d'assimilation, mais c'est quand même en 1992, au moment de l'abrogation de ce décret dont j'ai parlé tout à l'heure, que le premier ministre de l'époque, Paul Keating, hein, fera cette citation absolument très belle, d'ailleurs, que je vais vous lire, et qui est magnifique et qui montre vraiment tout le chemin parcouru, hein, si on peut dire, depuis un peu plus de deux siècles, après tout ce que je viens de vous évoquer. Donc on ne peut pas imaginer que les descendants d'un peuple dont le génie et la résistance ont maintenu une culture ici depuis plus de 50 000 ans, qui survécut à 200 ans de dépossession et d'abus, se voient nier leur place dans la nation. Voilà ce que disait le Premier ministre Paul Keating. Sachant que peu de temps avant, en 88, 24 000 signatures avaient été recueillies pour que l'on organise un jour du pardon. En 1999, une loi de réconciliation est proclamée par le Premier ministre John Howard. Le traitement fait aux indigènes, le chapitre est considéré comme le chapitre le plus sombre de l'histoire de l'Australie. En l'an 2000, donc quand même parallèle des Jeux Olympiques de Sydney, de Cathy Freeman, qui allume la flamme que j'ai dit tout à l'heure, plus de 250 000 personnes traversent le Harbour Bridge à Sydney, qui est un pont très célèbre, en commémoration, hein, de tout cela. Et puis en 2008, hein, donc il y a maintenant un peu moins de 10 ans, ce sont les excuses publiques du Premier ministre Kenneth Rudd, hein, et de la chef de l'opposition Brenda Nelson. Et je cite, hein, cette grande déclaration d'excuses prononcée par le Premier ministre Kenneth Rudd. Nous demandons pardon pour les lois et les politiques des parlements et des gouvernements successifs qui ont infligé de profondes blessures, de la souffrance et des pertes parmi nos concitoyens australiens. Nous demandons surtout pardon pour le retrait des enfants aborigènes et indigènes du détroit de Torres et de leurs familles, de leur communauté et de leur pays. Un discours retransmis absolument partout. Et en 2010, Ken Wyatt, un libéral, donc devient le premier aborigène élu à la Chambre des représentants du Parlement fédéral australien. Alors un grand chemin parcouru pour un peuple qui n'a eu de cesse hein, depuis le moment où la colonisation s'est mise en place hein, de se retrouver quand même alors que ce peuple était présent depuis 65 000 ans, 50 000, 65 000, 100 000 ans à peu près, certains disent 150 000 ans même, hein, c'est peut-être un peu excessif, dans cette île continent. Et qui ont quand même subi de plein fouet hein, cette colonisation. Ainsi, quelques dates quand même dans cette chronologie. Hein, 38 000 ans avant notre ère, c'est l'époque dite de l'homme de Mungo. Hein, 28 000 ans avant notre ère, ce sont les premières formes d'expression artistique que l'on retrouve, donc extrêmement anciennes. Hein. 20 000 ans avant notre ère, c'est le début des peintures rupestres, notamment dans le nord, à Kakadu. 8 000 ans avant notre ère, c'est l'invention du fameux boomerang, cet objet technologique hein, qui est très célèbre, hein, qui sert notamment pour la chasse. Hein. Des peintures rupestres hein, dans le territoire du nord montrent des images également d'animaux, etc. Et puis, à partir, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc des premiers repères de l'île en 1522, 1606, hein, ce sont les premiers contacts, et puis la colonisation, le capitaine Cook, 1788, et ensuite, tout ce qui va découler, et que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors aujourd'hui, que dire au niveau démographique ? Ben, c'est que les aborigènes sont, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus massivement présents hein, donc les territoires du Nord, hein, avec 68 901 individus recensés en 2011, 29,8% de la population quand même. Hein, et puis après, ils sont répartis autour de 3-4% maximum dans les autres régions. La Nouvelle-Galles du Sud, c'est 2,9%. Le Queensland, donc qui est aussi à l'est, 4,2%. L'Australie occidentale, 3,8%. L'État de Victoria, État du Sud, moins de 1%. L'Australie méridionale, 2,3%. La Tasmanie, cette grande île dont on a parlé tout à l'heure, 4,7%. Et dans les territoires de la capitale australienne de Melbourne, 1,7%. Alors on estime donc que les aborigènes hein, étaient entre 315 000, je l'ai dit tout à l'heure, et 750 000, estimation haute, lorsque les premiers colons hein, sont arrivés, la fameuse carte de Tyndall hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évidemment, aujourd'hui, on tourne à peu près à une population d'à peu près 80, 90 000, 200 000, bah, autour de 200 000 à peu près 200 000 habitants à l'heure actuelle. Ça a été évidemment beaucoup moins, hein, 238 492 Australiens d'origine aborigène ont été recensés en 1991. Hein, en 1920, hein, donc à la fin de ce pénible 19e siècle, ils n'étaient plus que 60 000. Donc on a quand même eu une reconstitution hein, de cette population progressive. Je l'ai dit tout à l'heure, sur 22 millions d'habitants, donc constitue l'Australie, à l'heure actuelle, hein, nous serions à 670 000 aborigènes. Ce qui est quand même un chiffre relativement intéressant par rapport aux fluctuations diverses qu'on a pu évoquer dans cette émission de ce soir. Alors 250 tribus, 250 langues, hein, 27 familles linguistiques. Alors rien que pour le plaisir de dire quelques mots aborigènes, ces langues sont par exemple l'Aliawara hein, dans les territoires du Nord et dans le Queensland, le Murimbata dans les territoires du Nord, hein, ou encore le Wati, qui est parlé dans le grand désert de l'Ouest. Les tribus sont divisées en clans. Un clan est un groupe de descendance dont les membres descendent d'un même ancêtre. Les hommes d'un clan épousent normalement une femme d'un autre clan. Donc c'est un principe de mariage qu'on appelle l'exogamie. Et les clans en ce temps-là peuvent être matrilinéaires, c'est-à-dire que l'appartenance au clan est déterminée en une lignée maternelle. Mais la majeure partie des clans sont patrilinéaires, c'est-à-dire que c'est l'appartenance clanique du père qui détermine celle des enfants. Alors certains mots de la langue aborigène sont passés dans la langue australienne, je le disais tout à l'heure, le kangourou, le koala, Uluru, donc pour Ayers Rock, ou encore le bilabang. Alors, il y a également un art extrêmement développé de ce peuple, bien sûr. D'une part, les peintures que l'on retrouve sur des écorces, notamment. Le rapport à la nature, les aborigènes protègent des sites considérés comme totémiques, ce sont ces sites que reproduisent les petits esprits à l'origine de la reproduction du totem, c'est-à-dire tant de l'animal que de son correspondant humain. Et puis il y a eu de musique, le yikadi ou didgeridoo est considéré comme l'instrument le plus représentatif des aborigènes. Également bien sûr des danses rituéliques qui évoquent le temps du rêve nous avons parlé. Alors, dans le cinéma, évidemment, bien sûr, tout ça a été évoqué. Il y a le célèbre Crocodile Dundee, 1986. Et puis tout un tas de films qui évoquent tant la culture de ce peuple que, on l'a évoqué tout à l'heure, la longue conquête de ce qu'a été leur tout simplement la récupération de leur terre, la récupération de leurs droits. Alors, pour terminer, on peut évidemment évoquer un certain nombre de choses concernant les aborigènes, notamment que ce sont des arts, notamment sur ce site de Wandidja dans le nord-ouest de l'Australie, où la peinture des esprits ancestraux va évoquer de certaine façon ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes, c'est-à-dire que peut-être et pourquoi pas que des peuples très anciens comme celui-là auraient pu être en contact avec d'autres formes d'intelligence à un moment donné. C'est ce qui frappe justement, ce sont ces connaissances astronomiques dont je vous parlais tout à l'heure, avec une absence totale de technologie. Le site de Wandidja, ces arts tout à fait étranges qui se développent de façon autonome dans cette île continent, pourrait bien sûr nous amener à y penser. On a, on le rappelle, la même chose. On a la même chose avec certains peuples d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, on le sait, avec des représentations quand même tout à fait étonnantes de personnages qui sont représentés avec des sortes de cagoules ou avec des sortes de casques autour d'eux. On peut parfaitement imaginer les dessins de Georges Gray, par exemple, représentant des peintures rupestres de Wandidja observées lors de son expédition en 1839. Je vous recommande d'aller regarder sur Internet. C'est tout à fait intéressant. De ce que cela peut évoquer. Alors évidemment, si on a envie de rêver, on peut effectivement imaginer cela. On peut aussi se dire que ces arts tout à fait originaux se sont développés du fait de cet aspect extrêmement unique qui a été l'isolement de ce peuple pendant quand même à peu près pratiquement plusieurs presque 100 000 ans et qui fait que cela a très bien pu développer toute une culture tout à fait originale. Donc voici un peu ce soir, mes chers amis, en un peu moins d'une heure, d'un rapide coup d'aile balayé à peu près 150 000 ans d'histoire, dont on a bien compris que en ce qui concerne les aborigènes d'Australie, nous n'en sommes qu'au début de la découverte d'une culture qui, à mon avis, est bien loin d'avoir cessé de nous apprendre des choses au travers des travaux des archéologues, des anthropologues, bien sûr, et des sociologues. Je renvoie toujours cette image extraordinaire de cette carte de Tyndale, qu'on appelle le modèle de Tyndale, qui représente donc toutes ces tribus et toute cette population, on l'a dit tout à l'heure, entre 300 000 et 700 000 habitants à l'époque de la conquête par les Britanniques, de la colonisation du 18e, la fin du 18e siècle, pour aujourd'hui, finalement, après avoir été une période très basse au niveau de la population, voire une reconstitution. Mais le choc, il ne faut pas s'imaginer que les aborigènes de l'an 2017 sont sortis indemnes de tout cela. Bien sûr que non. Bien sûr que non, car ce choc de destruction de la fin du 18e et du 19e siècle quelque peu saccagé leur société extrêmement fragile, bien sûr. Et c'est seulement grâce justement aux patientes reconstitutions, moi j'ai eu la chance d'aller en Australie il y a quelques années, il n'y a pas un musée d'une grande ville australienne dont des salles ne soient entièrement consacrées à la culture des aborigènes. Il y a vraiment eu un travail de mémoire et de revival, pourrions-nous dire, de ce peuple et de cette culture tout à fait considérable qui a été fait. Qui est encore fait aujourd'hui et qui permet tout simplement à cette population qui est encore extrêmement pauvre et extrêmement délaissée, quand on voit ce qu'on appelle nous des SDF en Australie, c'est souvent des aborigènes. Donc c'est vraiment un peuple dont la réhabilitation est plus que jamais d'actualité. C'est un long travail, ça a commencé il y a une trentaine d'années, on l'a vu, et c'est un travail qui n'aura de cesse de se poursuivre. Donc voilà, c'est un sujet que j'aime traiter, celui de l'Australie et des aborigènes. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que il s'agit là encore une fois d'un peuple qui a sans doute beaucoup de choses à nous apprendre. On sait que le savoir perdu certaines tribus amazoniennes aujourd'hui a seulement été reconstitué et que l'on sait que ces peuples qui avaient choisi des développements non matérialistes étaient dépositaires de connaissances tout à fait étonnantes et qui, à mon avis, n'ont pas fini de nous surprendre, si cela est possible, qu'on puisse effectivement reconstituer un jour. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine émission sera fin mai. En attendant, c'était Histoire du soir avec Olivier. Et je vous dis à bientôt. Cette émission a été enregistrée en différé. Je vous remercie pour votre écoute et votre compréhension. Au revoir. Thank you.